Bismillahirrahmanirrahim. Donc, une fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala, une fois que le prophète Lot alayhi salam a invoqué contre son peuple et qu'il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de le secourir, Allah azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala a répondu et a secouru son prophète, le prophète Lot alayhi salam. Alors Allah Azza wa Jal, il a envoyé des anges. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a envoyé des anges, mais ces anges, ils sont passés chez qui en premier? Chez le prophète Ibrahim. En lui annonçant la naissance de qui? De Ishaq. En lui annonçant la naissance du prophète Ishaq alayhi salam et en lui annonçant, et souvenez-vous, on l'a vu ça. Lorsque Allah Azza wa Jal a envoyé les anges au prophète Ibrahim et que les anges ont annoncé à Ibrahim et à Sarah la naissance d'Ishaq, quelle fut la réaction de Sarah? Elle a rigolé. Elle rigolait. Pourquoi elle rigolait? Les savants, ils ont dit elle rigolait parce qu'elle a appris. Pas la naissance d'Ishaq, mais elle a appris avec la naissance d'Ishaq qu'Allah tabaraka wa ta'ala allait détruire le peuple de l'autre. Et elle savait les péchés que commettait ce peuple-là. Donc elle a rigolé car elle était contente, car elle était heureuse que ce peuple allait être exterminé. Que ce peuple allait être exterminé. Donc, l'histoire, on l'avait déjà citée. Lorsque les anges ils sont venus à Ibrahim avec la bonne annonce, nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ces habitants sont injustes. Alors, qu'est-ce qu'Ibrahim il a dit? Regardez le prophète Ibrahim, alayhi salam. Il a dit, mais il y a Lot. Il y a Lot dans ce peuple-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Nous savons parfaitement qui habite, nous le sauverons, lui et sa famille, sauf sa femme qui sera parmi ceux qui périront. Également, Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous cite cette histoire lorsqu'il dit وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. Lorsque Ibrahim, alayhi salam, a dit, il a commencé à demander, comme on l'a vu pour le prophète Lot, alayhi salam, puisque Ibrahim, il était bon, il était miséricordieux, il a pensé directement à son neveu. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ya Ibrahim? أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Lorsque la peur a quitté le prophète Ibrahim et que la bonne nouvelle lui est parvenue, il a commencé à plaider en faveur du prophète Lot. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Puisqu'on a dit qu'Ibrahim, il était clément, il était implorant et repentant. Ils lui ont dit, Ibrahim, renonce. Arrête de parler de ce sujet-là, car l'ordre de ton Seigneur est déjà parvenu. Un châtiment irrévocable va les atteindre. C'est-à-dire, détourne-toi de ce sujet, parle d'autre chose, car leur sort est scellé. Le châtiment qu'ils vont avoir est inéluctable, de même qu'ils seront exterminés. Ils vont disparaître. قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. L'ordre de ton Seigneur est déjà venu. C'est-à-dire que cela, c'est un ordre qui provient d'Allah Azza wa Jal, et les ordres ne seront jamais rejetés, car le châtiment et le commandement ne peuvent être repoussés. Un châtiment irrévocable va les atteindre. Certains savants, parmi les Mufassirun, ceux qui ont expliqué le Coran, ils ont dit que Ibrahim, alayhi salam, il a demandé aux anges. Il leur a dit, vous allez détruire une cité? Est-ce que vous détruirez une cité, une ville, où il y a 300 croyants? Ils ont dit non. Est-ce que vous détruirez une ville où il y a 200 croyants? Ils ont dit non. Est-ce que vous détruirez une ville où il y a 40 croyants? Ils ont dit non. Est-ce que vous détruirez une ville où il y a 14 croyants? Regardez Ibrahim alayhi salam comment? Ils ont dit non. Jusqu'à ce qu'ils disent, est-ce que vous détruirez une ville qui a un seul croyant? Ils ont dit non. Alors il a dit, ben Lot, alayhi salam, Lot, alayhi salam, habite dans cette cité. C'est pour cela qu'ils lui ont dit, nous savons exactement qui habite. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalil dit, Ya Ibrahim, a'rid an hadha. Ne polémique pas sur ce sujet. Change de sujet, car l'ordre de ton Seigneur est arrivé. Et souvenez-vous, c'est qui ces invités? Ces anges? On avait expliqué que ces anges, c'est Djibril, Mikaël et Israfil. Lorsqu'ils ont quitté le prophète Ibrahim, ils se sont dirigés vers Sadoum, cette ville de Sadoum. Et ils ont pris quelle forme? Parce que les anges ont cette capacité, Allah Azza wa Jalla leur donnait la capacité de quoi? De se transformer, de prendre une apparence humaine. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des êtres humains. Non, mais ils ont l'apparence d'êtres humains. Ils ont pris l'apparence de qui? De beaux jeunes hommes, de beaux garçons, de très beaux hommes. Pourquoi? Afin d'éprouver, par la permission d'Allah, le peuple de Lot, les gens du peuple de Lot, et écoutez bien, afin de fournir des preuves contre eux. Afin qu'ils ont qu'Allah tabaraka wa ta'ala fournit des preuves contre eux. Alors ils sont arrivés dans la région, dans l'endroit, chez le prophète Lot, à la tombée de la nuit. Et ils ont demandé l'hospitalité. Lot, alayhi salam, il les a accueillis chez lui, de peur que son peuple les voit et leur fasse du mal. Et Lot, alayhi salam, il les a pris pour des êtres humains. Et l'autre, alayhi salam, comme on a cité le verset tout à l'heure, mais on ne l'a pas traduit, quand Allah Azza wa Jalla dit toujours dans Surat Hud, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. Dans le sens du verset, et lorsque les messagers, ils sont venus, lorsque les messagers sont venus à Lot, alayhi salam, Lot, dans le sens, il a éprouvé une grande gêne. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici un jour terrible. Imaginez la situation du prophète Lot, alayhi salam. Pour lui, c'était un jour de grand malheur. Pourquoi? Parce qu'il a eu des invités et il n'était pas en capacité de les défendre. Il savait qu'il devrait les défendre cette nuit, toute cette nuit. Imaginez, c'est un peuple de pervers. Là, tu as des beaux jeunes hommes qui viennent. Si ce peuple les découvre, ça y est, il va devoir les défendre. Et il sait qu'il n'aurait pas été en capacité. Il est seul par rapport à tout son peuple, à son peuple de brigands. Certains savants ont rapporté que... Et ça, c'est connu dans l'histoire de Lot, c'est que le peuple leur a interdit, le peuple de Lot leur a interdit de recevoir qui que ce soit. C'est-à-dire, ils lui ont interdit au prophète Lot d'avoir des invités chez lui. C'est-à-dire que Lot, il ne pouvait pas, selon les règles de son peuple, recevoir des invités chez lui. Mais là, il n'a pas pu refuser l'hospitalité à ces gens qui lui demandaient. Certains savants comme Qatada rahimahullah, il a dit que les anges ils sont venus alors que l'autre travaillait dans son champ et qu'ils lui ont demandé l'hospitalité. Il a tellement éprouvé de la gêne à leur égard qu'il les a emmenés chez, il les a emmenés chez lui. Mais il a cherché, lui il pensait que c'était des êtres humains, donc il a cherché à les convaincre de passer leur chemin et de quitter cette ville. Et il disait, je ne connais pas sur terre des gens plus mauvais que les gens de cette cité. Alors il marcha un peu, puis il répétait cela. Il répétait cela 3-4 fois. Yanni, sortez de cet endroit. Les gens sont mauvais, vous n'avez rien à faire ici. Mais les anges ont reçu l'ordre d'exterminer cette cité après que le prophète Lot n'ait témoigné contre ses habitants. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils recherchaient les anges ici? Pourquoi Allah Azza wa Jalla a envoyé les anges? Pour ça, pour que Lot a témoigné contre son peuple. Pour que Lot, alayhi salam, témoigne contre son peuple. Une fois qu'il a témoigné contre son peuple, le châtiment peut arriver. Certains ont dit, ont rapporté que les anges, ils sont sortis de chez Ibrahim. Ils se sont dirigés en direction de la ville de Lot. Et ils sont arrivés au milieu de la journée. En arrivant devant le fleuve de Sadoum, ils ont rencontré la fille de Lot, qui puisait de l'eau pour sa famille. Car Lot avait deux filles. Une qui s'appelait Raïsa. Une qui s'appelait Raïsa. Raïa Tha Alif. Raïsa. Ça, c'est la plus grande. Et la plus petite, elle s'appelle Zaharata. Elle s'appelle Zaharata. Zal, Ayn, Ra, Ta, Alif. Donc Raïsa, la plus grande, et Zaharata, la plus petite. Alors, les anges ont dit à Raïsa, ils lui ont dit, ô jeune fille, est-ce qu'il y a une maison où on pourrait nous offrir l'hospitalité? Alors elle lui a dit, restez là jusqu'à ce que je revienne. Elle est partie voir son père, Lot, alayhi salam. Et elle lui a dit, ô mon père, il y a trois jeunes hommes qui te cherchent à l'entrée de la ville. Et je n'ai jamais vu des visages aussi beaux que le leur, que les leurs. Accorde-leur l'hospitalité avant que tes concitoyens, que ceux, les gens de ce peuple, ne les souillent. Et bien sûr que ses concitoyens lui avaient interdit d'accorder l'hospitalité. Alors il est parti les chercher sans que personne ne soit au courant, en dehors de sa famille. Mais la femme de Lot, elle était au courant. Seule la famille de Lot était au courant. Ses filles et sa femme. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? On a dit, c'était une mécréante. Elle a dévoilé le secret. Elle a révélé le secret de leur présence. Elle a été voir le peuple. Il y a dans la maison de l'autre des hommes dont je n'ai jamais vu de plus beaux visages. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru vers cette maison. Ils ont couru vers cette maison. Alors à ce moment-là, l'autre, alayhi salam, a débattu avec son peuple. Il a débattu avec son peuple. Et subhanallah, quand tu lis, quand tu vas méditer sur les versets qui parlent de cela, de ce débat, tu vas voir que Lot, alayhi salam, a cité différents moyens pour les dissuader. Différents moyens. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a cité sept moyens. Et lorsque tu les lis, tu trouves sept moyens. Il leur a fait craindre Allah. Il leur a appelé à la douceur, à la raison, etc. Et notamment parmi les grandes choses qu'il leur a dit, les choses, subhanallah, très étonnantes, que l'autre, alayhi salam, a dit à son peuple à ce moment-là, il leur a dit, « Ya qawmi, قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. Ô mon peuple, voici mes filles. Elles sont plus pures pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ô mon peuple, voici mes filles. Elles sont plus pures pour vous. Certains savants, ici, il y a plusieurs avis. Certains savants, ils ont dit que l'autre, alayhi salam, il a dit voici mes filles, en parlant de leurs épouses à eux. Pourquoi? Parce qu'il est connu qu'un prophète est comme un père pour son peuple. Un prophète est comme un peuple, est comme un père pour son peuple. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalil dit "An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Les croyants doivent faire passer le prophète avant leur propre personne et ses épouses sont leurs mères. Les femmes du prophète alayhi salat wa salam sont nos mères. Ce qui revient à dire que le prophète alayhi salat wa salam est un père pour nous. Vous me suivez ou pas? Ce qui revient à dire que les prophètes sont des pères pour leur peuple. Donc lorsqu'il dit « Haoula ibanati », ce sont mes filles, il parle des femmes de son peuple, leurs femmes. Regardez, vous avez des femmes, mais vous préférez assouvir vos désirs avec les hommes. Mariez-vous avec ces femmes-là. Assouvissez les désirs avec vos femmes et non pas avec ces hommes. D'autres, ils ont dit non. Ils ont dit que lorsqu'il a dit « c'est mes filles », c'est-à-dire que l'autre, alayhi salam, a parlé de ses propres filles. Il a parlé de ses propres filles. Et il leur a proposé, certains ils ont expliqué cela comme ça, ils ont dit que l'autre a proposé ses propres filles à lui, tout en sachant que eux, dans tous les cas, ils refuseraient. Et l'autre avis, wallahu alam, c'est l'avis le plus proche, c'est que l'autre, alayhi salam, a réellement présenté ses filles, afin qu'il les marie avec eux, de peur qu'ils commettent une chose encore plus grave. Ça veut dire qu'à la base, l'autre, il n'aurait jamais marié ses filles avec ces gens-là. Mais là, la situation a fait que le fait de marier ses filles avec ces gens-là est moins grave que ces gens-là commettent leur péché, etc. D'accord ? Donc, il y a plusieurs choses par rapport à cela. Dans tous les cas, ce que l'on retient, c'est que l'autre, alayhi salam, a dit « Oh mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. » Elles sont plus pures pour vous. Également, parmi les choses que l'autre, alayhi salam, a dit, il leur a dit quoi ? Ittaqullah, craignez Allah, ne me déshonorez pas en portant atteinte à mes invités. N'a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable ? Regardez comment l'autre, alayhi salam, ne me déshonorez pas, craignez Allah. N'y a-t-il pas quelqu'un parmi vous qui est raisonnable, qui est rachid? Regardez comment il a utilisé tous des différents procédés pour les appeler à la raison. C'est-à-dire qu'il leur a interdit de commettre ses péchés. Il a témoigné contre eux en disant qu'il n'y a aucun homme sensé, aucun homme raisonnable parmi eux. Mais qu'en réalité, ils étaient tous stupides, dépravés, bêtes, mécréants. C'est pour cela que les anges, ils attendaient cela. Ils attendaient d'entendre de la part de l'autre, alayhi salam, qu'il témoigne contre son peuple. Mais les gens de son peuple, qu'Allah azza wa jalla les maudisse, ils ont répondu à cela. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Ils lui ont dit, tu sais très bien qu'on n'a pas envie de tes filles. En vérité, tu sais très bien ce que nous voulons. Tu sais très bien ce que nous voulons. On ne veut pas nos femmes, on ne veut pas tes filles, mais on veut ces hommes-là. Ils ont répondu par des propos abjects à leur noble prophète, et ils n'ont pas craint le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également l'autre, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit ? Si seulement j'avais de la force pour vous résister, ou si je trouvais un appui solide. C'est-à-dire qu'il a souhaité avoir une force, un moyen de les empêcher, un soutien pour lui venir en aide et les châtier d'avoir tenu de tels propos. Écoutez ce qu'il a dit. Si seulement j'avais un soutien solide. Est-ce que l'autre, alayhi salam, avait un soutien solide? Effectivement, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en miséricorde pour qu'Allah fasse miséricorde au prophète l'autre. Le prophète alayhi sallam, dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il dit? Yarhamullahu luta laqad kana ya'wi ila ruknin shadid. Qu'Allah fasse miséricorde. Et dans le hadith d'Abu Huraira, et le prophète alayhi sallam, il dit, nous sommes plus en droit qu'Ibrahim du doute lorsqu'il dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah dit, ne crois-tu pas encore? Si, mais ici il cite l'histoire du prophète Ibrahim, afin que mon cœur soit rassuré. Ensuite il dit, le prophète alayhi sallam, qu'Allah fasse miséricorde à l'autre. Il disposait d'un appui solide, c'est-à-dire Allah, tabaraka wa ta'ala. Et également, qu'est-ce qu'il dit le prophète, alayhi salam, si j'avais séjourné en prison, Youssouf n'y serait pas resté, je l'aurais innocenté. Donc ici, le prophète, alayhi salam, il se rappelle des prophètes qui sont passés avant lui, de ses frères, et notamment, il a imploré la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en faveur de Lot, alayhi salam. Alors, à ce moment-là, on a dit, son peuple est venu dans sa maison, ils ont voulu agresser ses hommes. Alors Lot, alayhi salam, leur a recommandé d'aller voir leurs épouses, etc. Mais ils n'ont pas cessé. Ils n'ont pas cessé et ils n'ont pas écouté leur prophète. Ils n'ont pas voulu écouter ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a interdit. Alors à ce moment-là, ils ont mérité le châtiment. À ce moment-là, ils ont mérité le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite, notamment dans surat Al-Qamar, les versets 33 à 40, « Kadhabat qawmu lutin bin nudhur » Le peuple de Lot n'a pas cru aux avertissements. « Inna arsalna alayhim hasiba illa ala Lot » Nous envoyâmes sur eux des pierres, sauf la famille de Lot. « Nadjaynahum bisahar » Nous les avons sauvés avant l'aube. Ni'matan min indina. Et cela comme bienfait de notre part. Kadhalika najzi man shakar. Ainsi, nous récompensons celui qui est reconnaissant. Et vous lirez les versets, inshallah. Donc ici, Allah, tabaraka wa ta'ala, nous informe que Lot, alayhi salam, il a empêché ses concitoyens d'entrer chez lui. Mais ils se sont opposés à lui. Alors que la porte était fermée, ils ont essayé d'y pénétrer par tous les moyens. Et lui, il les exhortait, il leur interdisait la turpitude alors qu'il était derrière la porte. Et lorsque la situation est devenue difficile, il a demandé, il a dit, si seulement j'avais de la force pour vous résister, si seulement je trouvais un appui solide, j'aurais fait venir sur vous le châtiment. Alors les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et à l'autre, nous sommes les émissaires, les messagers de ton Seigneur. Ceux-là ne pourront jamais t'atteindre. À ce moment-là, les anges ont fait comprendre à l'autre qu'ils venaient de la part d'Allah Azza wa Jal. Alors ici, à ce moment-là, l'ange Jibril alayhi salam, il est sorti. Imaginez cette scène. Ils étaient en train de taper à la porte. Ils essayaient d'y pénétrer par n'importe quel moyen. Qu'est-ce qui est sorti vers eux? L'ange Jibril alayhi salam. Il a battu de son aile, en un battement d'aile. Il a frappé leur visage avec un battement d'aile. Ils ont tous perdu la vue. Ils sont tous devenus aveugles. Jusqu'à ce qu'ils n'arrivaient même plus à retourner chez eux, ils retournaient chez eux en se tâtonnant sur les murs, en promettant qu'ils allaient revenir le lendemain et qu'ils allaient en découdre avec lui. Alors, les anges ont ordonné à Lot, alayhi salam, de quitter la ville. Ils ont ordonné à Lot, alayhi salam, de quitter la ville avec sa famille à la fin de la nuit. Et Allah Azza wa Jalla leur dit, et qu'aucun d'entre vous ne se retourne. C'est-à-dire, lorsque vous allez entendre le bruit du châtiment, lorsque le châtiment s'abattra, ne vous retournez pas. Et ils lui ordonnèrent aussi de marcher derrière les siens. C'est-à-dire, mets ta famille devant et toi marche derrière, exception faite pour sa femme. Alors ici, en fonction de la manière de lire le verset, certains, ils ont compris que la femme de l'autre est partie avec eux. Elle est partie avec eux, mais sur le chemin, elle s'est retournée. D'autres, ils ont dit non, elle est restée avec le peuple. C'est-à-dire, certains, ils ont dit qu'elle est partie, mais elle s'est retournée et elle sera, dans tous les cas, elle partira, mais elle sera touchée par le même châtiment. Par le même châtiment que eux. Allah Azza wa Jal nous cite la femme de deux prophètes. Quels sont ces prophètes où leurs deux femmes étaient mécréantes? Prophète et femme, naam. Nuh alayhi salam et Lot. Ahsant. La femme de Nuh, elle s'appelait Walira, la femme de Nuh. Elle s'appelait Walira. Et la femme de Lot, Waliha. Subhanallah, qu'une lettre qui change. D'accord, la femme de Nuh, elle s'appelle Walira, comme le cite Ibn Kathir. Et la femme de... La femme de Nuh, Walira. Et la femme de Lot, Waliha. D'autres ont dit Waliha, c'est la femme de Nuh, et Waliha Bil'ayn, c'est la femme de Lot. Ala kulli hal, nous on cite ce que cite Ibn Kathir, Walira, la femme de Nuh, et Waliha, la femme de Lot. Alors ici, les anges, ils lui ont annoncé la nouvelle du châtiment, que le châtiment, l'extermination de ces transgresseurs était imminent. Que ces gens maudits et orgueilleux, Allah tabaraka wa ta'ala allait en faire un exemple pour toute l'humanité. Alors lorsque Lot alayhi salam est sorti de chez lui en compagnie de sa famille et de ses deux filles, parce qu'on a dit qu'il n'y a aucun homme qui a cru en son message. Il n'y a aucune personne qui a cru en son message. Alors il est parti. Une fois qu'ils furent éloignés de la cité, de la ville, le soleil s'est levé. Et l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'ordre d'Allah azza wa jalla est descendu sur eux. Puisque Allah, tabaraka, les anges, ils ont dit que au petit matin, au subh, yani quitte cette ville en pleine nuit, parce qu'au subh, le châtiment s'abattra sur eux. Le châtiment s'abattra sur eux. Alaysa bis-subh qarib, est-ce que le subh n'est pas proche? Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a fait venir son ordre. Allah azza wa jal, il a retourné cette cité. Et il a fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile se succédant les unes les autres, portant une marque connue de son Seigneur. Et ces pierres sont prêtes à frapper d'autres peuples injustes. Ça c'est toujours dans la sourate Hud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Jibril alayhi salam, il a arraché ce village. Parce que dans cette région, il y avait 7 villages. Il les a arrachés. Imaginez cette scène, barakallahu fikoum. Un village, un peuple, leur demeure, leur maison, tout ce qu'un village peut contenir, il a été arraché du sol. Il a été arraché du sol. Il est monté jusqu'au ciel. Les 7 villages, l'ange Jibril alayhi salam les a arrachés de leur emplacement avec un seul battement d'ailes. Les 7 villages avec tous leurs habitants. Certains ils ont dit qu'ils étaient 400, d'autres ils ont dit qu'ils étaient 4000. Jibril alayhi salam il a élevé tout cela avec tous leurs habitants, leurs animaux, leurs terres jusqu'au ciel, jusqu'à ce que les anges du ciel ont entendu les cris des coqs et les aboiements des chiens. Imaginez, leur peuple, tout ça y est monté jusqu'en haut. Tout ça s'est monté jusqu'en haut. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a ordonné de les renverser. Subhanallah. Il les a montés, il les a renversés, il les a éclatés par terre. Pourquoi? Parce que comme on a dit, ils ont renversé la raison. Au lieu de se marier avec les femmes, ils sont mariés avec les hommes. Et je parle, je dis marié, mais ils ont, c'est pas du mariage qu'ils ont fait. Hein? Subhanallah, Allah Azza wa Jal les a retournés. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et en plus de cela, il a fait pleuvoir sur eux Sijil. Sijil, c'est quoi en réalité? Sijil, à la base, c'est pas un mot qui est arabe. C'est un mot qui est d'origine perse, qui est devenu, il est rentré dans la langue arabe. Mais à la base, c'est pas un mot qui est arabe. Ça signifie quoi? Dur, robuste, solide. Donc des pierres dures, robustes, solides, des pierres d'argile succédant les unes les autres. Elles sont descendues sur eux depuis le ciel, portant une marque connue de leur Seigneur. Ça veut dire que chaque pierre, elle avait le nom de celui qu'elle devait tuer, de celui qu'elle devait abattre. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit wal mu'tafikata ahwa dans sourate An-Najm. Et il a anéanti le village de Lot. Farashaha ma rasha, et le recouvrit du châtiment. Et il le recouvrit. Quel bienfait de ton Seigneur, mais tu en doutes. Allah Azza wa Jalla, il a renversé ce peuple de fond en comble. Et il a fait pleuvoir sur eux une pluie de pierres d'argile, se succédant les unes aux autres, portant le nom de chaque personne sur laquelle elle devait abattre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce peuple a été exterminé, même ceux qui étaient absents. Imagine qu'il y en a un parmi eux qui devait être en voyage. La pierre avait le nom de celui qui devait être, c'est-à-dire tout le monde, celui qui est là comme celui qui n'est pas là, il fait partie de ce peuple, il est anéanti. Il est anéanti. Et comme on a dit, certains considèrent que la femme de Lot est restée avec son peuple. Mais d'autres, ils disent qu'elle est partie avec son époux et ses deux filles. Mais lorsqu'elle a entendu le cri et la chute de la ville, cette chute terrible, elle se retourna vers son peuple. Elle a désobéi à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et elle a dit « Oh mon peuple !» Et là, une pierre est tombée sur elle. Et elle lui a fracassé le crâne et ça l'a fait rejoindre ses concitoyens et parce qu'elle était de la même religion que eux et parce qu'elle a dévoilé le secret des invités de l'hôte. C'est pour cela que cette femme, comme Allah Azza wa Jalla il dit « Daraballahu mathalan » لِلَّذِينَ كَفَرُوا مْرَأَةَ نُوحْ وَمْرَأَةَ لُوْتْ. Allah donne comme exemple aux mécréants la femme de Nuh et la femme de Lot. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا. Elles étaient tous deux sous l'autorité de nos pieux serviteurs. Tous les deux les trahirent. Tous les deux les trahirent. فَخَانَتَاهُمَا. Elles ont trahi leur mari, leur prophète. Et elles ne furent d'aucune aide contre le châtiment d'Allah. Et eux, ces prophètes-là, ils ne furent aucune aide pour elles contre le châtiment d'Allah Azza wa Jal. وَقِيلَ دْخُلَ النَّارِ مَعَ الدَّخِلِينَ. Et on leur dira, entrez en enfer avec ceux qui le méritent. Ça veut dire que ces deux femmes, la femme de Nuh et la femme de Lot, elles ont trahi leur mari. Mais elles l'ont trahi dans quoi? Elles l'ont trahi dans la religion. Ça ne veut pas dire qu'elles les ont trahis dans l'adultère. Elles les ont trahis dans la religion. D'accord? Parce qu'il n'y a aucune femme des prophètes qui a trahi, yani qui a commis de l'adultère. Mais ici, la trahison, c'est la trahison dans la religion. D'accord? Donc, on termine rapidement. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit... وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Et ces pierres, les pierres qu'ils ont touchées ce peuple-là, elles sont prêtes à frapper d'autres peuples. Ça veut dire que tous ceux qui vont commettre les péchés, notamment l'homosexualité qu'a commis ce peuple-là, eux aussi méritent le châtiment. Ils méritent le châtiment. C'est pour cela que certains savants, dans les règles, dans un pays musulman, dans les règles juge, il considère que celui qui pratique l'homosexualité, la sodomie, il doit être quoi? Il doit être lapidé. Les pierres, le même châtiment qu'Allah Azza wa Jalla leur a envoyé, il doit être lapidé. D'accord? La lapidation. Qu'il soit marié ou non. D'accord? Également, un exemple pour les Hanafis, pour Abu Hanifa, lui il dit que le châtiment de celui-là, il doit être jeté du haut d'une montagne et ensuite être lapidé. Comme le châtiment de son peuple. Ils sont montés, ils ont été jetés du ciel jusqu'en bas et Allah Azza wa Jalla leur a envoyé des pierres. Donc ils disent, celui qui est surpris en train de faire cela, dans ce cas-là, c'est ce qu'on doit lui faire. Le jeter d'une montagne et ensuite le lapider. D'accord ? Bien sûr, ça c'est, je sais pas, tu vas, tu sors dans la rue et... Non, attention, hein. D'accord, ça c'est dans nos lois, ça c'est l'application d'un juge musulman dans un état musulman. D'accord? Et on termine, bi'idhnillah, sur ça, lorsqu'Allah Azza wa Jalla il dit, et nous avons laissé des signes pour ceux qui réfléchissent. Ou dans le sens de cette parole, c'est pas un verset. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a laissé des signes pour ceux qui réfléchissent. On a dit c'était où? Sodome. Ici il y a quoi comme mer dans cet endroit-là? C'est la mer morte. Alors, Certains savants considèrent que c'est à cet endroit précis qu'Allah Azza wa Jalla a recouvert le peuple de Lot. Certains disent qu'il n'y a pas de preuve. Mais méditons rapidement sur cette mer. Cette mer qui aujourd'hui, c'est un lac, c'est une mer qui est quasiment inutilisable parce qu'elle est salée, elle a un taux de sel qui est quasiment un petit peu moins, 8 ou 9 fois plus qu'une autre mer. Également, donc ça se trouve où cette mer morte? Entre la Palestine, la Cisjordanie et la Jordanie. Subhanallah, on a dit que Jibril alayhi salam a arraché leur village. Vous savez que c'est la mer la plus basse sur terre. Vous avez vu la mer Méditerranée? Ben imaginez que la mer Méditerranée, elle a un niveau. Cette mer-là, elle est 420 mètres en dessous de cette mer-là. Subhanallah, c'est l'endroit le plus bas. C'est l'endroit le plus bas. Et c'est pour cela, c'est le plus bas de la terre. C'est pour ça que ceux qui se baignent là-bas, et on verra que c'est interdit pour certains savants, notamment Cheikh Al-Albani, rahimallah, a interdit cela de se baigner ou de... T'en as, ils vont faire les balnéothérapies ou ils vont dans cet endroit parce que c'est fort en sel. T'en as, ils vont essayer de guérir dedans, etc. Mais en réalité, les savants, ils disent c'est interdit de se baigner dedans ou de profiter de cette eau. D'autres, ils disent non, il n'y a pas de preuve. D'accord, à la kulli hal, on cite... Cela, pourquoi? Parce que le prophète a.s.w. a interdit de passer dans les endroits où les peuples ont été châtiés. D'accord? Dans les endroits comme avec les gens de Thamoud. Ne passer par là qu'en pleurant. D'accord? Et notamment, Cheikh Al-Albani, rahimallah, il dit que c'est à cet endroit-là que Jibril a retourné ces villages-là. Et cette mer morte, il est retourné, ensuite il leur a lancé les pierres et ensuite une pluie s'est abattue sur eux et c'est cette pluie qui a créé cette mer-là. Et quand tu regardes les scientifiques, ils te disent comment une mer elle a pu se produire à cet endroit-là. Alors ils vont te donner, c'est les plaques tectoniques, la plaque de l'Arabie et la plaque de l'Afrique, etc. À la kulli hal, tu regardes cet endroit, il est incroyable. Et surtout, c'est que... Allah tabaraka wa ta'ala, il dit inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktharuhum mu'minin. Il y a là un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Également dans d'autres versets, Allah azza wa jalla nous dit cet endroit-là, les Arabes passent. C'est des moments, tout le monde voit cette eau. C'est pour cela qu'en réalité, Allah azza wa jalla, il a laissé cette eau-là, un lac fétide, donc on ne peut tirer aucun profit de son eau ni de tout ce qui lui entoure parce que c'est devenu quelque chose de mauvaise qualité. C'est même une eau qui est très sale. Les témoignages de ceux qui ont vu cette mer là, ils te disent que c'est une eau qui est sale, etc. En réalité, tout cela, c'est des signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé. Comment elle s'appelle cette mer? La mer morte. C'était des villes, des villages qui étaient vivants. Allah Azza wa Jal en a fait devenir des villages morts. Et jusqu'à aujourd'hui, ça donne ce nom-là. La mer morte. Subhanallah. Subhanallah al-Azim. D'accord? Donc, dans cela, il y a une leçon, une exhortation pour ceux qui redoutent le châtiment d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.